Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on a un invité, Marc-André Leclerc, un ancien conservateur maintenant dans les médias qui se prête au jeu de Yann et Frank. Donc, juste pour vous, pendant le temps des fêtes.
Donc, Marc-André, tu as publié il y a presque un an de ça, si je ne me trompe pas, la date exacte, c'est ça, 2022. Ce bouquin-là, Confidence politique, incursion dans l'entourage de nos élus. Au départ, quand je l'ai consulté, quand j'ai commencé à le feuilleter, je me disais, ah, il y a beaucoup de choses à dire. Puis je me suis rapidement rendu compte que c'était aussi comme une série d'entrevues que tu avais faites avec plusieurs autres personnes qui ont travaillé dans l'ombre de la politique. Donc, on reviendra plus dans le détail, mais il y a Martine Tremblay qui a travaillé comme chef de cabinet de René Lévesque. Il y a Yann Plante qui était à l'ADQ, puis au conservateur. Il y a Luc Lavoie, ton collègue, qui était chef de cabinet de Mulroney et au cabinet de Lucien Bouchard et plusieurs autres personnages. Fait que c'est vraiment, j'ai envie de dire, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est un livre de geek politique. Là. Donc, si vous aimez le... Si vous êtes du genre à écouter des documentaires là, behind the scenes, ben, c'est vraiment fait pour vous autres, ce bouquin-là. Ça nous montre différentes formations politiques. Donc, il y a quelqu'un qui était au NPD, des gens qui étaient plutôt des péquistes ou des caquistes, d'autres qui étaient aux conservateurs, d'autres qui étaient chez les libéraux, entre autres Yasmine Abdel-Fadel, l'une de tes collègues aussi. Peut-être question de forme un peu, comment est venue l'idée de ce bouquin-là et comment t'as décidé de faire des entrevues avec ces gens-là? Est-ce que ça c'était plus comme des conversations que vous avez eues comme ci, comme ça, ou c'était vraiment formel, t'as rencontré des gens, fait des entrevues?
Ben en fait, moi quand je suis devenu, j'ai passé 10 ans là, sur la colline à Ottawa, de 2009 à 2019. À la fin, j'étais chef de cabinet d'Andrew Scheer lorsque j'ai quitté après la campagne de 2019. Et quand j'étais nommé chef de cabinet, il y a un de mes amis, Yann Plante d'ailleurs, Frank, qui t'a mentionné, qui m'avait donné ce livre-là, The Gatekeepers, qui parle des chefs de cabinet, comment chacun des chefs de cabinet à la Maison-Blanche influence le président, un président américain. Et bon, j'avais lu ça une fois que je suis rendu chef de cabinet. Et quand j'ai quitté la politique, quelques mois plus tard, en réfléchissant à ce que je voulais faire après la politique, je me suis dit, on n'a pas d'outils comme ça au Québec qui montrent justement, de temps en temps, on parle des employés politiques, mais vraiment qui vont nous montrer qu'est-ce qui se passe dans les coulisses et comment les employés politiques sont des gens qui sont essentiels là, au fonctionnement, aux politiciens, aux premiers ministres, dans différentes organisations. Et j'ai approché une douzaine de personnes, de Martine Tremblay, Frank que tu nommais, qui a travaillé avec René Lévesque, jusque des gens qui ont travaillé avec Justin Trudeau, François Legault, vraiment provincial, fédéral, de toutes les couleurs, de tous les horizons. C'est un livre qui est apolitique. Là. Je ne suis pas là pour décider, dire si Jean Charest a pris une bonne décision de Mulroney en 1984, mais vraiment de dire c'est quoi votre travail, qu'est-ce que vous avez fait. Puis vraiment, je me suis assis avec ces gens-là, là, les faire parler vraiment dans une entrevue dite officielle. Et après, au début, ce n'était pas comme ça que je voulais faire le livre. C'est un peu plus académique. Là. Ben, voici comment on fait une campagne électorale. Mais c'est en parlant avec les gens que je me suis rendu compte que c'était le fun de rentrer dans des histoires, d'aller voir comment ça se préparait à la période de questions avec René Lévesque, qu'est-ce qu'il mangeait, comment il s'organisait. Donc, c'est en parlant avec les gens que le livre s'est construit. Puis je me suis dit, ben la meilleure façon de le rendre, c'est de faire sous forme de confidence et de parler de gens qui sont derrière les rideaux, derrière la scène, derrière la caméra, mais qui jouent un rôle très important dans notre démocratie.
Yann, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter avant que je passe à peut-être un autre point.
Ben, honnêtement, je trouve ça intéressant de voir ça parce qu'on dit souvent en politique canadienne que les apparatchiks, premièrement, c'est-tu un mot qu'on aime dans le milieu, apparatchik, ou c'est un mot qui est méprisé?
non, parce que souvent on dit, non mais c'est un bon point Yann, mais c'est parce que souvent on dit, tu sais, les apparatchiks, ou tu sais, des fois on nous appelait, tu sais, à Ottawa, les députés qui disaient, ah, les noms aux élus au bureau du premier ministre, ou au parti, ou peu importe, mais je veux dire, ces gens-là, là, puis moi j'en étais un, on fait un travail essentiel, puis on fait un travail que les élus ne veulent pas faire. Tu sais, je veux dire, c'est pas. C'est, oui, des fois, dans ton rôle, surtout quand tu deviens chef de cabinet, tu sais, tu rencontres d'autres ministres, d'autres députés, d'autres, des leaders étrangers mm-hmm. qui viennent au pays, puis tu as ces rencontres-là, puis tu rencontres des fois des vedettes, peu importe le sport, tout ça. C'est le fun. Mais il reste que beaucoup de choses que tu fais dans ton quotidien comme employé politique que les élus ne feraient pas. Un, ils n'ont pas le temps. Eux, ils sont en comité, ils sont en commission, ils sont dans un space spaghetti, ils sont en caucus, ils passent un projet de loi. Tandis que toi, comme employé politique, ben, tu es là. Puis souvent, ce qui enrage un peu les élus, c'est parce que l'employé politique, l'élu, lui, il est très dans le quotidien. Hein. Tu sais, c'est quoi mon prochain comité? C'est quoi le prochain vote? C'est quoi ma prochaine activité dans mon comté? Tandis que les employés politiques, tu as le temps de te projeter dans l'avenir. Puis de dire qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, puis c'est quoi la prochaine tournée du chef, puis c'est quoi le premier ministre, il s'en va où dans 2 semaines. Ça, c'est sûr que des fois, il y a des frictions entre les élus,
ouais.
mais qui sont élus par les gens, puis les employés politiques, mais eux qui ne sont pas élus, mais qui ont la confiance de leur patron, puis qui ont un travail à faire.
Ben écoute, je voulais te poser cette question-là beaucoup plus tard dans l'entretien, mais allons-y parce que tu m'as ouvert la porte. Tu dis, à la fin, en fait, au dernier chapitre du livre, à page 247, tu écris. Même si l'employé politique n'est pas élu, il peut, dans des rôles importants, avoir plus de pouvoir ou d'influence qu'un élu. Un peu ce que tu viens de dire. Tu dis le chef de cabinet du premier ministre ou du ministre de la Santé a 10 fois plus d'influence sur les politiques publiques qu'un élu sans portefeuille ministériel. Et mm-hmm. tu dis que ça frustre beaucoup. Ben, est-ce que... Moi, ça me rappelle un peu ce qu'une certaine députée avait appelé les plantes vertes. Et Catherine Dorion a repris ça récemment en disant, tu sais, nous autres, c'est décidé par la machine un peu du parti, puis nous autres, on nous donne des cartons quasiment pour nous dire quoi dire. Jusqu'à quel point c'est vrai, cette perception-là? Parce qu'il y a des élus que ça a l'air d'arranger, dans le sens d'avoir de l'encadrement, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus des électrons libres qui aimeraient ça un peu pouvoir faire ce qu'ils veulent, puis ne pas recevoir d'appel du cabinet pour dire, ben là, écoutez, voici les lignes, voici la directive un peu à suivre. Il y a comme une zone d'une part d'ombre là-dessus, puis je trouvais ça intéressant que tu en parles dans le bouquin.
Moi, j'aime pas tant. Tu sais, bon, il y a des gens qui l'ont dit, c'est plantes vertes. Est-ce que c'est vraiment des plantes vertes? C'est sûr que dans des points de presse, lorsqu'on met 28 élus derrière le premier ministre, ben, c'est sûr que est-ce qu'ils pourraient faire une meilleure utilisation de leur temps? Probablement. Mais dans le quotidien, tu as différents types d'élus également. Tu sais, il y en a qui vont venir dans ton bureau, qui vont te proposer des choses, qui vont travailler avec toi. Tu sais. Moi, quand j'étais chef de cabinet, là, le porte-parole là, en finance, c'était Pierre Poilievre. Mais Pierre Poilievre, c'était pas une plante verte. Là. Pierre Poilievre, il venait dans ton bureau, puis jasait, puis tu avais des vraies discussions, puis il y avait l'oreille du chef, puis tu travaillais avec lui, ou une Michelle Rempel, par exemple. Il y avait il y a tout le temps des gens comme ça dans ton caucus qui, oui, ont un incident. Mais il y en a qui ça ne leur dérangeait pas trop également de se laisser, tu sais, pousser par le vent ou que suivre la barque, puis qu'eux, ben, tu leur présentes une stratégie, puis on va dire ça, puis ils étaient contents de le faire, tu sais. Tu ne peux pas non plus, dans un caucus, surtout au fédéral, c'est des gros caucus, là, contrairement à Québec. Tu sais, quand tu as 150, 200 députés, ben là, maintenant, tu ne peux pas non plus avoir 200 stratèges en chef. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, mais c'est ça, parce qu'il y a un peu une dichotomie, puis tout le temps un paradoxe, parce que si un chef de parti, par exemple, ne propose pas une stratégie qui aura travaillé avec ses employés, son staff, ben là, les députés vont dire quoi? Ben là, on a un chef, puis il n'y a pas d'envergure, puis il n'y a pas d'idée. Tandis que s'il propose, ben là, c'est sûr, il veut nous imposer quelque chose. T'sais. Fait, mais oui, c'est ce que j'ai écrit dans le livre à la fin. C'est sûr que comme chef de cabinet, t'as plus d'importance. Parce qu'il y a un pouvoir aussi de proximité. Là. Je veux dire, dès que tu finis une rencontre avec ton patron, ben, que ce soit un ministre ou un premier ministre, ben, après ça, là, le débrief, il se fait avec les employés politiques qui étaient dans la salle. T'sais. Fait que, après ça, les actions ABC que tu dois faire après cette rencontre-là, ben, sont prises avec ces personnes-là. Mais le caucus également joue un rôle important. T'sais, à Ottawa, il y a des rencontres à tous les mercredis matins, puis il y a des décisions qui sont prises là. Puis comme employé politique, t'sais, quand moi j'étais chef de cabinet, j'étais le seul employé politique. Donc, on a parlé beaucoup dans les dernières semaines, là, la CAQ qui se font des caucus le mercredi soir sans employé politique. Ce que je comprends, c'est qu'à Québec, avec la CAQ, ils sont plusieurs. Ils sont 5-6. Je me suis informé il y a 2-3 semaines lorsqu'il y avait des grandes rencontres là-dessus. Mais moi, à Ottawa, j'étais le seul dans la salle. Mais pourquoi j'étais là? Ben, parce qu'après ça, là, j'avais pas deux heures à passer avec le chef à débriefer du caucus. Là. Une fois que je suis là, j'ai l'information, je pouvais dispatcher des affaires. Je me ramassais tout le temps avec une liste d'épicerie ou trois ou quatre députés que j'avais besoin de rencontrer dans mon bureau juste pour m'assurer que leur projet de loi privé ou telle chose, ils soient en accord ou voulaient avoir le chef dans leur comté ou une vidéo. Tu sais, des fois, c'est pas des grosses affaires, mais au moins, ça me permet de travailler puis d'avancer par la suite. Tu sais. Fait que moi, j'ai pas aimé ça dernièrement qu'on ait dit « Ah, on va faire un caucus. » Tu sais, moi, les espèces de caucus sans employés politiques qui vont tout régler, là, ça n'existe pas. Ce n'est pas les employés politiques là, qui empêchent un caucus là, d'aller de l'avant.
Ouais, ouais. De ton air, de l'air conservatrice, on sait que Stephen Harper, le bureau du PMO, était très fort. Ouais. Est-ce que c'était pareil sous Andrew Scheer avec toi? Je pense que c'était quelqu'un qui était un petit peu plus ouvert aux idées des autres que Harper, qui était un peu plus fermé de mémoire.
Oui, plus ouvert, mais je pense qu'une fois que tu deviens premier ministre, il y a une concentration. Puis Justin Trudeau le vit également. T'sais, au début, là, c'était OK, là, les ministres, vous allez décider. Là. Mais quand ça commence à aller moins bien dans les sondages, quand tu commences à avoir des controverses, ben là, tu resserres. Là. Et plus les années passent, malheureusement, c'est la nature de la politique. Peu importe, je pense, le niveau, c'est que plus les années passent et plus tu réduis ton cercle de gens de confiance.
Oui.
Parce qu'il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des gens qui te trahissent, entre guillemets. Fait ce qui fait en sorte que les gens pour qui tu as confiance, il y en a de moins en moins. Mm-hmm. Fait que là, tu resserres, puis c'est les mêmes qui tirent. Tu sais, les gens ont l'impression que c'est les mêmes qui tirent les ficelles. Mais tu sais, quand il arrive des grands moments où ça brasse beaucoup, ça, c'est sûr et certain que tu réduis le nombre de gens à qui tu partages l'information.
Ben oui.
Puis ça, c'est un problème aussi. Ils partagent l'information, mais d'un autre côté, les gars, il n'y a rien de plus choquant. Tu sais, quand tu arrives, tu dis en caucus, on va vous présenter la stratégie de la prochaine campagne ou un projet de loi ou une annonce qu'on va faire dans deux semaines. Puis ça se ramasse dans la presse, dans le Devoir, dans le Journal de Montréal. C'est choquant. C'est sûr qu'après ça, mais à la fois d'après, mais tu le dis pas. Tu te fermes la trappe, puis là, ils sont fâchés. « Oh, on va l'appeler dans le journal, puis on est des élus. » Ouais, mais c'est parce que si on vous le dit, ça va pareil se ramasser dans le journal.
À ta connaissance, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé la technique Marc Bergevin? Donc, c'est pas Marc Bergevin qui a inventé ça, mais ça m'avait frappé quand j'avais appris l'existence de ça. Marc Bergevin soupçonnait que dans son entourage, quelqu'un parlait de rumeurs, d'échanges ou d'informations confidentielles aux médias. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ses plus proches collaborateurs et il leur a tous donné une version un peu différente de ce qu'ils pensaient faire. Ça s'est ramassé sur des sites genre Hockey 360, dans les coulisses, tout ça.
Et je pense que le vrai nom de ça, c'est la technique du canari jaune, quelque chose comme
et
ça.
Il a su, en fait, qui faisait couler l'information. Donc, tu sais, il y a de l'information qui est coulée volontairement et il y en a d'autres qui est coulée. T'en parles un peu là, dans le livre aussi, là, que tu sais, le coulage d'informations, ça se fait depuis toujours. On essaie de tâter le pouls de la population avec des trucs. Mais du coulage involontaire, est-ce que toi, tu as eu connaissance ou les gens avec qui tu as parlé, qui ont eu connaissance de ce genre de stratégie-là un peu?
Ben, je pourrais dire cette technique-là, à mes débuts, j'ai déjà vu ça. En politique, il y a tout le temps la liste des comtés ciblés. Tu sais, à l'aube d'une élection, c'est quel comté que tu vas cibler pour mettre des vedettes, puis mettre des ressources, puis tout ça. Puis oui, j'ai déjà vu ça, tu sais, dans des partages de réunions d'informations, soit en caucus, soit en petit groupe, là, de donner des listes qui n'étaient pas vraiment la bonne liste.
Ouais.
Pour savoir qui allait parler. Ça ressemble un peu là, à Marc Bergevin, savoir... Ah, OK. Qui est dans la salle, puis qui est ces personnes-là. Mais c'est sûr que c'est choquant. Hein? C'est tout le temps choquant de, tu sais, quand tu partages l'information, que tu penses que tu es en famille, puis là, tu sais, ça se ramasse après ça. Parce qu'après ça, souvent, toi, tu as une stratégie, là, puis tu fais référence à ça fin dans le livre. C'est souvent, tu sais, oh, OK, ce matin, on se lève, telle information dans la presse ou dans le Journal de Montréal ou dans Le Devoir ou à Radio-Canada. C'est pas anodin. Là. Ça arrive pas. Le hasard en politique, là, c'est rare.
Ouais.
C'est très, très rare, là, le hasard en politique. Là, je veux dire, quand tu arrives avec un candidat vedette ou une annonce, là, ben, tu contrôles, tu donnes l'information à un journaliste, tu t'entends avec cette personne-là sur à l'heure ça va sortir, comment ça va sortir. Puis moi, je vais vous le dire, là, en politique, c'est une chose que j'aimais beaucoup faire. Là. C'est le fun que tu as une information, là, que tu sais que ça va faire réagir le lendemain matin dans les médias. Puis là, t'appelles tel journaliste, garde, mardi, sors-moi cette information-là, voici pourquoi, voici le comment. Puis là, après ça, ça se déploie. fake. Mais ça, le hasard n'existe très peu en politique.
Ben, on parle de stratégie, puis il y a une des premières anecdotes du livre qui, sur laquelle j'ai vraiment accroché, c'est que, puis tu racontes un peu le background de tout ça, mais c'est un peu accessoire, là, mais tu sais, tu parles de, en gros, quand, toute quand l'aventure pour toi commence avec Andrew Scheer, bon, c'est la course à la conservatrice au fédéral. Donc, les gens se rappellent, il y avait, à l'époque, Maxime Bernier était favori. Ça, c'est avant le Parti populaire, tout ça. Mm. Il était favori pour succéder à Stephen Harper. Donc, il y avait une chefferie intérimaire, évidemment. Ouais. Mais c'était lui qui était le favori. Et là, tu racontes un peu comment ça se passe, t'sais, comment Scheer était plutôt derrière lui dans les sondages qu'on avait, puis même dans les premiers résultats de vote. Mais l'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est, tu racontes ça dans le livre, tu dis, après une courte nuit, l'équipe Scheer s'est retrouvée pour le petit déjeuner afin d'écrire le discours qu'elle espérait être celui de la victoire. Pendant qu'elle s'affairait à la tâche, le téléphone de M. Scheer sonne, un numéro du Québec. Il a pris l'appel en s'éloignant de la table pour ne pas être dérangé par le bruit des tasses et des assiettes. Ce n'est que quelques heures plus tard que j'allais apprendre que la personne qui avait appelé mon patron à l'heure du petit déjeuner était Maxime Bernier. Durant la conversation, le beauceron concédait indirectement la victoire à M. Scheer. Était-ce une tactique pour que notre équipe arrête de travailler ou était-ce un acte de bonne foi? Personne ne le saura jamais. C'est assez spécial, pareil. Si c'était, une stratégie, c'est une stratégie quand même assez, je dirais pas machiavélique, là, mais c'est une stratégie particulière, de dire...
Ouais, mais... oui, tout ça, c'est, je veux dire, ce qui s'est passé, là, on était le 27 mai 2017, là, donc on était à la fin de cette course-là, plusieurs candidats, et c'était un peu spécial. Là, puis le, également, quand le téléphone a sonné, vu que c'est un téléphone, c'est un numéro du Québec, Andrew me montre le numéro, tu sais, mais comme si, moi, vu que j'étais Québécois, je connaissais tous les numéros du Québec. Là, il montre le numéro, ben là, réponds, là, c'est un numéro du Québec, là, 819, quelque chose, je pense. Fait là, mais là, il revient, mais tu sais, là, ça va vite. Puis on sentait, là, il y avait des discours, là, la veille, les résultats étaient le samedi, en fin de journée, puis on sentait qu'il y avait, bon, c'est une courte victoire, vous allez me dire, les gars, mais on sentait qu'il se passait quelque chose, tu sais. Parce que pour M. Bernier, là, son discours, ça avait été très difficile. Là. Mais c'est ça. Puis là, c'est quand il est revenu plus tard, vers ça, mettons, il était 7-8 heures le matin, qu'on s'est revu par la suite, là, sur l'heure du lunch, qui m'a dit c'est Maxime, qui m'a appelé le matin. Puis là, il me disait félicitations, tu as bien travaillé. Puis tu vas faire les mots exacts, là, je ne m'en rappelle pas. Mais c'est ça. Indirectement, il concédait la victoire. Puis moi, la même chose avec ses employés, son équipe de campagne, quand je suis retourné au centre des congrès en après-midi. Ah, félicitations Marc-André, vous avez fait une bonne campagne, vous avez eu la bonne stratégie. Fait je pense qu'il sentait là, que ça allait être, ça allait être difficile.
Ouais, moi, personnellement, dans cet épisode-là de la course à la chefferie, une des raisons pourquoi j'aimais beaucoup Maxime Bernier à l'époque, c'était son intervention face au quota de lait. Puis, on sait que dans la campagne Andrew Scheer, ça a été déterminant pour la victoire d'Andrew. Puis je pense que c'était un peu l'architecte de ça, ou en tout cas, tu as été impliqué dans beaucoup de discussions. Ouais. C'était quoi votre thinking à ce moment-là pour battre cette idée-là qui a été quand même assez cruciale dans la campagne de la course à chef? Ouais.
Ben, tu sais, moi, j'avais commencé en janvier 2017. Je travaillais pour Rona Ambrose en 2016, suite au départ de Stephen Harper. Fait que là, on arrive, puis là, je vois un peu comment la course se dessine, puis... moi, je trouvais que M. Bernier, ce n'était pas la meilleure personne à ce moment-là pour gérer le parti. Fait que là, je regardais les candidats qui étaient là. Je connaissais Andrew parce qu'il était leader parlementaire, puis on se croisait tous les matins. Il s'est lancé dans la course à l'automne 2016. Et moi, c'était en janvier 2017. J'ai dit, garde, je lâche ma stabilité avec Rona Ambrose aux communications, puis je m'en vais avec Andrew. Puis là, après deux semaines, je regardais ça aller. Puis là, j'ai dit, bon, OK, le Québec sont derrière Andrew, c'est clair. Derrière Maxime, plutôt. Fait que j'ai dit, OK, c'est clair. J'ai dit, là, il faut que je me trouve une stratégie. Parce que, tu sais, une campagne à chefferie, là, il n'y a rien de sexy, là. C'est tu vends des cartes de marque. Le reste, on s'en fout.
Juste préciser un truc, Marc-André, que directement en lien avec ça que tu mentionnes dans le livre et qui, moi, me surprit, là, c'est que, je ne sais pas comment le dire autrement que ça, mais on a l'impression que pour le Québec, il y a c'est pas le bon mot, là, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Il y a quasiment quelque chose de tribal, là, de genre, c'est quand il y a un candidat qui vient du Québec, par définition, oui, on va vers lui, parce que moi, je me serais plutôt attendu que les conservateurs québécois aillent du bord de Scheer, mais toi, tu dis même à un moment donné que c'était comme un peu risqué slash mal vu pour toi d'aller du bord de Scheer et non de Bernier, parce que là, tu prenais position pour un gars de l'Ouest. Et un peu ce qui s'est passé à la dernière chefferie, là, on a vu tout le caucus québécois, sauf Paulus et un autre, se mettre derrière Jean Charest, même si, comme dans le cas de Gérard Dettel, il avait dit tout ce qu'il n'y a pas de mal à dire.
Non, exactement. Donc, tu as raison, Frank. Moi, là j'étais comme le Québécois. Puis là, pourquoi je ne suis pas derrière le Québécois? J'avais comme pas le choix d'être derrière Maxime Bernier. Fait que là, quand je suis allé avec Andrew, fait que là, passe deux semaines, je vois un peu l'état de situation. Puis là, je me fais pitié un peu des roches, entre guillemets, parce que là, j'appuie un gars de la Saskatchewan qui est né à Ottawa. Puis là, rapidement, je vois que sur le terrain, il y a un groupe de producteurs laitiers qui s'est formé. Fait que je vois le nom du monsieur Jacques Roy, que je ne connais pas, puis bon, facilité d'Internet, je rentre en contact avec lui, puis je veux savoir son numéro de téléphone, puis je prends le téléphone, je l'appelle, puis au début, hey, c'est qui ça, Leclerc, le gars du lac Saint-Jean qui travaille pour Andrew Scheer, mais pour me rendre compte, et c'est, tu sais, dans la vie, là, des fois, tantôt je disais qu'il n'y a pas d'hasard en politique, mais des fois, il y en a dans la vie, j'appelle ce Jacques Roy-là, je lui demande où ce qu'il reste, il me dit « je reste en Beauce », à Saint-Isidore de Beauce, ben moi, mon oncle, puis j'ai de la famille en Beauce, à Saint-Isidore de Beauce, qui sont des producteurs laitiers, qui est un des meilleurs amis à Jacques Roy, au gars qui met ça en place, le groupe Facebook, les amis de la gestion de l'offre. C'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Mais tu sais, moi, j'ai entendu plein d'affaires, tu sais, qu'on avait travaillé avec l'UPA, puis tu sais, on n'a jamais signé de deal, on a juste dit, on va protéger le système de la gestion de l'offre, mais on l'a toujours travaillé avec les producteurs sur le terrain. Un par un, là. Moi, j'ai envoyé des lettres, des formulaires en Abitibi, dans des villes que je connaissais pas, que je suis jamais allé, mais on a réussi à vendre 54, avoir l'ensemble des votes là-bas. Et c'est vraiment un mouvement de terrain, de gens, que oui, eux, ils avaient l'intérêt de protéger la gestion de l'offre, mais on l'a fait vraiment, là, vote par vote, puis personne par personne pour vendre des cartes de membres, là. Puis moi, c'est sûr, j'étais un gars de région, là. Puis moi, je sais c'est quoi l'impact du système de gestion de l'offre, puis comment c'est important pour la vitalité de nos régions. Fait que ça, c'est dans ma fibre. Moi, je me suis pas inventé là, une position par rapport à ça. Moi, je suis un régionaliste, je suis un gars de région, je suis un fier bleuet. Puis c'est sûr que je vais toujours défendre le système de gestion de l'offre, parce que si c'est pas ça, il faudra quand même subventionner l'industrie, là, comme ils font aux États-Unis. Fait qu'il n'y a pas de système parfait dans la vie, mais je pense que présentement, puis c'est comme ça, puis ça a permis, là, de faire bonne figure au Québec. Puis tu as raison, Yann, c'était crucial là, dans la campagne.
Si tu avais eu à conseiller Maxime Bernier par rapport à ce sujet-là, probablement tu aurais dit de ne pas y aller. Mais justement, je pense que où est-ce qu'il s'est exposé, c'est qu'on connaît les agriculteurs. C'est un mouvement qui a le militantisme dans la fibre. Ça, c'est clair. C'est facile pour eux se regrouper. C'est facile pour eux se mobiliser. Donc, de voir que vous avez été capable de capitaliser là-dessus, de ce côté-là, on peut penser que ça a été une erreur stratégique majeure de Bernier d'aller là, même si d'un point de vue économique, je pense que c'est quelque chose qui se défend amplement. D'ailleurs, je suis toujours en faveur de sa proposition de son côté. Mais stratégiquement, ça a été une gaffe majeure de son bord.
Ben, c'est ce que beaucoup de gens lui reprochaient, là. Je me souviens d'avoir entendu des gens du parti qui ont commenté après, ben, surtout aussi après le fait que Bernier ait décidé de quitter pour fonder bon, le Parti populaire, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui disaient, tu sais, Maxime, s'il voulait faire avancer des idées libérales, il aurait pu choisir tout sauf ça. Je me souviens que c'est quelqu'un qui commentait, je me souviens plus si c'est Paulus ou autre, c'était pas stratégiquement la meilleure des idées. Mais si on continue sur... parce que dans la deuxième partie, j'aimerais ça qu'on parle de quelques cas précis de gens que tu as interviewés qui sont tout à fait fascinants. Mais si on termine un peu ton parcours là-dedans, tu racontes comment ça s'est terminé avec Andrew Scheer. Puis mon impression puis ma constatation après, c'est que je me suis dit à quel point c'est ingrat, pareil, le travail dans les coulisses, parce que tu dis, bon, si le chef gagne, si le chef performe bien au débat, dans les élections, il n'y a personne sur les panneaux, sur les plateaux de télé qui va dire « Hey, Andrew Scheer, quelle performance ce soir au face-à-face TVA. » Tout ça, c'est à cause de Marc-André Leclerc qui l'a bien préparé. Ouais. Par contre, quand les performances sont mauvaises, on pointe l'entourage du chef, on pointe la mauvaise préparation. Là, il commence à chercher des boucs émissaires. Et tu le racontes dans le livre très bien. À un moment donné, tu es callé au bureau d'Andrew Shear. Tu sais pas mal ce qui s'en vient et tu rentres dans le bureau en disant « Je vais couper ce cours. J'ai dit que je vais m'en aller quand ils trouveront quelqu'un pour me remplacer. » Et lui, il fait comme te surprendre avec son approche. Il dit « Non, non, tu t'en vas maintenant. » Et tu dis « À ce moment-là, c'était comme un sentiment d'injustice. Là. Tu t'es dit « Mais voyons, après tout ce que j'ai fait, la bonne campagne. » Quand même, c'est pas une mauvaise campagne que les conservateurs avaient faite. On rappelle qu'ils ont quand même gagné le vote populaire à cette élection-là. Qu'Andrew Scheer avait eu quand même des scores corrects au Québec, là, dans les circonstances, qu'il y avait eu quand même des bons moments, tu le dis, dans les débats, mais c'est vraiment encore une fois la question sociale là, sur les trucs d'avortement et tout ça. Là. Comment t'as essayé de contrecarrer? Parce que visiblement, ça n'a pas fonctionné, mais tu le savais, là, tu t'en parles dans le livre, tu savais très bien que ça allait être comme ça, qu'il allait être accueilli avec une brique et un fanal. On va te cuisiner sur l'avortement, les gays, puis les questions sont finalement sociales. Là.
Oui, mais moi, quand on a entamé l'année 2019, donc l'année électorale, je savais que les débats, le face-à-face à TVA, allaient être cruciales. Donc, on avait mis vraiment une équipe en place de préparation, puis on se préparait. On était en janvier 2019, là, puis la campagne était en septembre, là, puis on faisait des simulations de débats. Là. Toutes les questions sociales, là, je pense qu'on les a pratiquées 158 fois. Tu sais? De trouver une façon, puis la question posée par Blanchet ou Trudeau, Singh, on avait vraiment travaillé. Ce qui est malheureux, c'est que le soir à TVA, au face-à-face, c'est vraiment été sa moins bonne performance des 159 fois qu'on l'a fait, là, hein, en pratique, puis le soir. Mais rendu là moi, l'équipe, on y avait tout donné. Là, toute la préparation était là. Rendu là, ces 10 minutes-là, ça appartient au chef, ça ne m'appartient plus.
C'est pas toi le sniper, t'es le coach.
Là. Non, je ne suis pas là. J'aurais aimé ça, moi, être là, répondre aux questions. Mais si je n'étais pas là, puis tu sais, sur ces enjeux-là, Andrew puis moi, on n'était pas à la même place non plus. Tu sais, je veux dire, mais moi, je respectais ça, mais il a garanti aussi, c'est qu'on n'allait pas rouvrir le débat sur l'avortement, là, par exemple. Fait, mais rendu là, on a essayé de donner la meilleure préparation. Ça n'a pas fonctionné. Mais je peux vous dire, les gars, ça a pris 2 secondes après, là, que j'ai reçu des textos de candidats, des gens dans le parti, puis que c'était fini pour moi. Là. Je veux dire, là, la campagne n'est même pas finie. Là. Puis déjà, il y a des gens dans le parti, il restait encore une semaine. Là, peut-être le débat restait 2 semaines, mais même la dernière semaine, là, Marc-André, il faut voir qu'il parte. Là. Puis moi, il a fallu que je prenne le téléphone avec des gens, puis leur dire, en pleine campagne, là, je me rappellerai toujours, j'ai fait 2 téléphones, j'étais à Winnipeg, il restait une semaine avant le vote, puis de garder là, le débrief, là, puis qui est coupable, là, on fera ça le lendemain de l'élection. Là, on va se concentrer là, à la gagner. Là. Puis si on ne gagne pas, là, vous ferez mon procès par après.
Incroyable.
Ça, c'est lourd. Ça, c'est extrêmement lourd. Puis c'est pour ça, au début du livre, là, je mets une courte citation de John F. Kennedy en 1961. La victoire a 100 pères, mais la défaite est orpheline. Mm-hmm. Quand tu gagnes, c'est la faute de tout le monde, mais quand tu perds, c'est la faute de personne. Moi, j'étais prêt en 2019 à prendre ma partie, tu sais, mon blâme par rapport à ça, mais je n'étais pas le seul. Et c'est ça qui me faisait mal. Franck, quand tu relates là, la rencontre, ma dernière rencontre comme chef de cabinet avec Andrew, je m'en rappellerai toujours, 21 novembre, il y avait un problème dans l'Ouest canadien avec le Canadien Pacifique, je pense, la CP, les trains, les grains, tout ça. Les députés de l'Ouest avaient des problèmes. Puis, on avait demandé, parce que le Parlement ne siégeait pas, on avait demandé une discussion. J'avais appelé Katie Telford. J'avais dit, Katie, il y a un problème dans l'Ouest. S'il faut passer une loi spéciale ou quelque chose, on est prêt à ce que vous conviez le Parlement avant, qu'on saute 2-3 étapes, qu'on passe ça. Fait que, collaboration. J'ai dit, mon boss voudrait parler avec le premier ministre. Fait qu'à 5 heures, on s'était parlé. On avait fait l'appel dans mon bureau. Puis, c'est par après que Andrew y vient dans mon bureau. Puis, c'est là qu'on a eu notre dernière discussion. Mais moi, j'étais prêt à le faire. Puis je comprends qu'un chef qui veut rester en poste après une défaite, bien, t'essayes, tu sais, tu dis, bon, il faut que je me sépare, il faut que je trouve du sang neuf, des gens autour de moi, il faut que je me sépare d'alliés, de gens qui m'ont permis. Mais moi, j'ai dit, garde, laisse-moi la chance de moi d'annoncer mon départ, de dire, regardez, je vais faire les la courte session de décembre, il y avait peut-être une dizaine de jours où ça allait siéger. Puis après ça, j'irai m'occuper de ma famille, mes enfants et vaguer vers un nouveau défi. Il me dit non. Il dit, c'est moi qui te mets dehors. On va faire ça lundi. On était un jeudi, on va faire ça un lundi. Finalement, il a fallu qu'il fasse ça. Là, ça s'est, une fois que ça s'est parlé, ça s'est répandu. Puis ils ont fait ça un samedi matin, un peu en panique. Mais c'est sûr, j'ai pris cette offre. Je suis rentré chez nous, j'ai pleuré ma vie. T'sais, tu dis, t'sais, les gens, après ça, te restent quoi? Là? T'sais, je mets ça dans mon CV. T'sais, après l'élection de 2019, je me suis fait mettre à la porte. Je veux dire, c'est ça, il n'y a pas de filet. Là. Moi, il n'y a pas. Je veux dire, je gagnais bien ma vie. Il y avait un bon salaire comme chef de cabinet, mais j'avais pas de permanence.
Et ils ont eu l'audace de te rappeler. C'est ça qu'on voit dans le livre. Oui. Parce qu'après, tu dis, pour la campagne de 2021, on me sollicité. Et dernièrement, on m'a sollicité encore. Donc là, tout d'un coup, tu étais revenu bien bon. Il y a quelque chose d'ingrat.
Non, c'est ça. Moi, j'ai quitté le 21 novembre. Ma dernière discussion, c'était le 21 novembre. Et après ça, je pense qu'Andrew, lui, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est dans le coin du 12 décembre environ, 3 semaines plus tard environ, il annonçait qu'il quittait. Et il annonçait ça à vers midi, puis à 3h15, on m'appelait pour que je puisse me joindre à une équipe d'un des candidats qui s'est lancé dans la campagne, Terrain Auto puis Peter McKay là, par la suite. Chose que j'ai déclinée. Un, émotivement, je ne suis pas là.
C'est sûr.
Deux, j'essaie de me rebâtir comme individu. Puis trois, de retourner vendre des cartes de membres, ça ne me tente pas. Donc, merci. Puis on m'a rappelé aussi par après, là, dans le duel entre Poliev et Charest que j'ai décliné également.
Écoute, on va poursuivre dans quelques... Ben, pour les gens qui nous écoutent, ça va être le lendemain. Pour nous, ça va être dans quelques instants. C'est pour ça qu'on a encore le même linge. Là. C'est pas parce qu'on se lave pas. donc, on va poursuivre, mais cette fois-ci avec des cas de gens que tu as interviewés, vraiment des trucs intéressants sur des personnages de l'ombre que vous connaissez ou peut-être vous ne connaissez pas du tout, qui ont joué des rôles clés derrière les rideaux, si on peut dire. Donc, manquez pas ça. On se reparle demain pour la suite de tout ça.